France Culture.
Il y a des fois des choses dans notre vie qui apparaissent comme ça. Je me souviens quand j'étais adolescente chez moi, j'avais vu une fois une photographie d'une femme qui était droguée, quoi. Une photo dans un journal de photos d'art. Et ça m'avait interpellée. Donc la première fois que j'entends parler des drogues, c'est effectivement cette photo. Donc je sais que les drogues, ce que c'est.
Héroïne, le temps des seringues. Une série documentaire de Hajar Ben Boubaker, réalisée par Gilles Blanchard. Premier épisode, l'arrivée de la Blanche à Paris. L'héroïne a longtemps occupé une place ambivalente dans l'imaginaire français. Drogue des stars, drogue des drogues, elle a suscité peur et fantasmes avant de disparaître des radars. Elle constitue pourtant un fait social majeur dans l'histoire de la France du XXe siècle. Son usage et sa gestion ayant conduit à l'une des plus grandes catastrophes sanitaires du siècle passé. L'héroïne se diffuse à la fin des années 60 dans toute la société française pour atteindre entre 150 000 et 300 000 consommateurs au début des années 90. Un chiffre colossal qui en cache un autre, terrible. Selon les chercheurs, environ 40 000 décès sont imputables à la consommation d'héroïne entre le début des années 60 et 2004. Un chiffre qu'ils jugent eux-mêmes largement sous-estimé, révélant ainsi le malaise des autorités. Comment l'héroïne, devenue drogue la plus meurtrière, a-t-elle traversé les époques? Si cette histoire est nationale, ce documentaire se propose d'en retracer une partie, celle de Paris et de ses banlieues. Comment cette drogue s'est-elle diffusée dans les milieux populaires et parmi les descendants de l'immigration, ceux de la communauté maghrébine en particulier? Au tournant des années 70, dans un Paris transformé par le vent révolutionnaire de mai 68, l'héroïne devient la drogue d'une partie de la contre-culture, à la recherche de sensations fortes. Elle a ses quartiers, celui de Saint-Michel, ou encore de l'Odéon, dans le centre de la capitale. Le nombre de consommateurs est encore marginal, alors que la jeunesse française, autant que la société, sont en pleine mutation.
Écoutez, ça y est, ça passe, nous sommes derrière. Nous sommes derrière, les gardes mobiles, ça pleut dans tous les sens. C'est épouvantable, ce sont des dizaines, des centaines de cailloux, de pavés qui volent maintenant. Je suis au milieu du boulevard Saint-Germain. Voici les étudiants qui chargent maintenant. Reculez! Les étudiants chargent!
Ma propre découverte, c'est pendant les événements de mai 68.
Malika, ancienne consommatrice.
J'étais au théâtre de l'Odéon, après avoir été à la Sorbonne. Et avec une copine, on allait se promener à Saint-Michel, quartier étudiant, etc. C'était l'époque des beatniks. Et donc, on a fait connaissance avec des beatniks. Mais ça n'allait pas plus loin. Je fumais pas, ils fumaient du shit. Et puis, j'avais des copains, des copines et des jeunes comme moi qui étaient un peu en rupture, qui habitaient la banlieue notamment, et qui venaient faire la fête à Paris pendant les événements de 68, ils étaient déjà dans la consommation, alors que moi je ne l'étais pas encore en mai 68.
Qui sont ces beatniks? Ce sont ces garçons et filles aux cheveux longs, aux vêtements, disons, négligés, qui voyagent dans toute l'Europe, généralement en autostop, avec le minimum de bagages, mais toujours ou presque, avec une guitare, une flûte, un tambour ou bien quelques crayons pour dessiner. À Paris, les beatniks ont un quartier d'élection. Les bords de la Seine, face à Notre-Dame, au quartier latin. Là, dans ces ruelles étroites et tortueuses, ils se retrouvent pour ne rien faire, assis sur les trottoirs ou dans les cours d'immeubles. Voici ce que pensent des beatniks les gens du quartier Saint-Séverin.
Oh, moi, je m'en plains énormément, moi, des beatniks. On est arrêtés au coin de la rue, ils nous demandent toujours, vous avez pas 20 sous, enfin, un franc, quoi, pour acheter du pain ou un coup de rouge. Non.
Mais vous dites ça en souriant, j'ai l'impression qu'ils vous amusent quand même.
Ça m'amuse, non, ça m'amuse pas, parce que moi, j'ai 54 ans, je vais au travail tous les jours pour gagner ma croûte, et il n'y a pas de raison, eux qui gagnent des 3 et 4 000 francs et plus. En faisant la mendicité et en faisant des crayons.
En quoi vous gêne-t-il?
Bah parce qu'ils rentrent dans la boutique et puis ils nous volent. Et vous savez, on risque de perdre des clients. Hein. Parce que souvent les clients ils disent, oh ben vous savez, On viendra plus chez vous parce qu'ils sont sales, on va attraper des bêtes. Hein.
Bah, ils couchent là, sous les ponts, au Vergalan. Bah.
Et les clochards dorment aussi sous les ponts.
Ah, les clochards, c'est pas la même chose. Clochards et ça, ça fait deux choses.
Vagabonds, parasites, épouvantails à touristes, le jugement est sévère. Mais eux, comment se voient-ils?
C'est un mot assez intraduisible qui veut dire... qui veut dire jeunes gens en colère, qui veut dire jeunes gens anticonformistes, qui veut dire en même temps aussi jeunes gens d'avant-garde. En vérité, c'est la beat génération.
Vous avez des amulettes, vous avez des médailles, vous avez des boucles d'oreilles. En quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que ça veut prouver?
Pourquoi avoir des amulettes, etc.? C'est le goût du symbole.
Le symbole, ça fait partie de la civilisation quand même.
Je rejette pas entièrement la civilisation. Je rejette pas la civilisation, je rejette le côté mauvais de la civilisation, il y a une nuance à saisir. Le côté du symbole, Cocteau l'a dit lui-même, il a dit, il est dommage dans notre société que l'on perde la nature du symbole.
Je suis Malika, je suis une vieille dame, une personne âgée maintenant, comme on dit. J'ai 74 ans, tout va bien, je suis très active. Avant-hier, j'ai fait 13 km en promenant ma chienne. Donc voilà, j'ai la forme. J'ai la forme et puis je pense aussi que du long voyage que j'ai pu faire dans les drogues, ben, je suis une survivante. Mon père était kabyle et j'ai grandi dans le 12e arrondissement, pas loin de la Bastille, pas loin de l'île aux Chalons. J'ai grandi pendant la guerre d'Algérie. C'était un café-hôtel d'Algériens dont mon père était propriétaire avec mon oncle. J'ai pas connu ma mère. Ma mère a été victime d'un féminicide et j'ai été élevée par la femme de mon oncle qui était une ancienne prostituée. J'ai connu mon père tardivement. Quand j'avais 12 ans, il était très rigide. Il n'y avait eu rien entre nous. Il m'avait laissé, j'avais 9 mois. Et puis, on fait connaissance à l'âge de... quand j'ai 12 ans et ça colle pas, quoi. Vous imaginez l'immigré qui a des principes. Oui, tu vas à l'école, etc. Mais la longueur de ta jupe. Enfin, vous voyez, plein de choses comme ça. Il s'est marié. Alors là, ça a encore moins collé. Elle était sympa, ma belle-mère, mais indifférente. Alors, quand vous êtes ado et que vous avez comme interlocutrice féminine une femme qui est indifférente, ben ça marche pas. Voilà. Donc ça prédestine un petit peu pourquoi à un moment donné je me sentais pas bien chez moi, quoi. Mais mon enfance a été heureuse.
C'est une période que j'ai vécue, personnellement.
Anne Coppel, sociologue.
1964, je débarquais à la Sorbonne, j'étais étudiante. J'ai vécu mai 68, j'avais pas du tout entendu parler de drogue. Mais deux ans après, ça a commencé à circuler et ça démarre vraiment après 68. On sortait d'une période qui n'était pas drôle du tout. Faut pas du tout s'imaginer que les années gaullistes, c'était drôle. Tout d'un coup, on avait l'espoir qu'on pouvait vivre quelque chose de mieux. Et c'était collectif, quoi. Donc c'est un mouvement social, c'est un truc très très fort. Oui, la révolution était possible et elle était souhaitée. Il fallait changer de façon de penser, il fallait changer la société dans son ensemble. Quand j'ai commencé à consommer du cannabis et aussi le miracle du LSD, je me suis retrouvée de nouveau complètement euphorique avec la croyance que oui, on était en train de vivre dans un autre monde. On avait basculé ailleurs. Et ça, c'est pas qu'une illusion. C'est aussi que le psychotrope, c'est ce qui modifie l'état de conscience. On vit autre chose. Ça peut être autre chose pour surmonter une douleur, ça peut être pour être plus efficace, plus rapide, plus amoureux, enfin ce qu'on veut, mais c'est aussi pour se changer soi-même, sortir de l'enfermement où on a l'impression que notre avenir est inscrit d'avance, qu'on doit reproduire ce que nos parents ont vécu, enfin que ça se répète d'une génération à l'autre. Et là, tout d'un coup, on pouvait être autre, expérimenter autre chose. Enfin, moi, dans mon groupe d'amis, c'était un groupe d'amis un peu particulier qui s'est forgé en grande partie à Vincennes. Et donc,
est-ce que vous pouvez préciser
à l'université de Vincennes? Vincennes, c'était une université pilote pour expérimenter une nouvelle façon d'enseigner avec des enseignants qui étaient la plupart du temps des militants qui s'étaient engagés au moment de mai 68. Et c'était un endroit aussi qui accueillait des gens qui n'avaient pas forcément passé le bac. C'était ouvert. Il y avait des philosophes, de la recherche en sciences sociales, il y avait de la linguistique, parce qu'à l'époque, j'étais plutôt sociolinguiste que sociologue, plus du cinéma, de la psychanalyse, enfin bref. Et d'ailleurs, une partie d'entre nous suivait les cours de Deleuze. Et j'en ai suivi un peu, pas beaucoup, mais un peu, suffisamment en tous les cas, pour avoir le sentiment qu'il nous parlait à nous.
Du coup, qu'est-ce qui se consommait ?
Ce qui se consommait, en tout cas, dans mon groupe d'amis, ça a été, comme tout le monde, on commence par le cannabis. Hein. Mais enfin, disons, les révélations, c'était le LSD. Après, assez vite, est venu des amphétamines, voire des méthamphétamines injectées. Voilà, il y a eu une période de folie absolue où on était tout le temps défoncé. Enfin bon, d'ailleurs, on recherchait cet état-là. On cherchait de perdre le contrôle, de perdre les repères sociaux, les codes. L'héroïne là-dedans, c'est venu un peu plus tard. En ce qui me concerne, par exemple, ça a duré assez peu de temps, mais ça a été surtout un peu comme un matelas, parce qu'on était complètement explosés. Donc, il y a eu un moment où j'étais devenue complètement folle. Il fallait que je me calme. Et c'est l'héroïne qui a eu cette fonction-là. J'avais absolument aucune idée, a priori, parce qu'on connaissait rien à rien. Quand l'héroïne a commencé à se diffuser, on ne croyait pas que ça rendait dépendant. Parce qu'on avait constaté que ce qui se disait sur le cannabis, c'était n'importe quoi. Alors bon, on ne croyait pas du tout dans le discours officiel, on voulait expérimenter par nous-mêmes. Et ce qu'on disait, c'est que la dépendance au cannabis, la dépendance à l'héroïne, on pouvait très bien consommer de l'héroïne sans devenir dépendant. Bon, ça s'est révélé quand même un peu plus compliqué que ça.
L'histoire des drogues, elle remonte à très loin. Bon, les anthropologues qui ont montré l'usage des plantes médicinales. Dans l'époque moderne, les produits qui viennent de très loin commencent à être consommés 18e. Début 19e, il y a un grand texte de Thomas de Quincey sur le mangeur d'opium. L'opium est répandu dans le 19e siècle, dans les milieux artistiques, avec le haschich évidemment, avec l'absinthe, Baudelaire, Verlaine. Quand même assez pour qu'il y ait une loi qui soit votée en pleine Première Guerre mondiale en 1916, la première loi sur les substances vénéneuses.
Michel Kokoreff, sociologue.
Et entre-temps, on a inventé l'héroïne et la cocaïne, dans l'ordre de la cocaïne et l'héroïne. L'héroïne dans les années 1880, qui est un anesthésique formidable, mais dont on se rend compte très vite qu'il est très addictif. Reste que dans les milieux populaires, c'est plutôt l'alcool qui est la drogue préférée des ouvriers. Et en gros, il faut attendre les années 50-60 pour que l'héroïne commence à se diffuser en France. Bon, elle rentre dans l'ère de masse, on va dire, dans les années 60, progressivement, mais donc on sort des milieux très 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 isolés, des artistes, des intellectuels, éventuellement ceux qui ont fait les colonies, qui reviennent toxicomanes et qui touchent une jeunesse étudiante, plutôt des classes moyennes. L'héroïne, il faut bien le dire, est un produit mythique, un produit flamboyant. C'est la drogue des drogues, c'est incroyable, essaye, tu verras. Mais en même temps, on sait aussi que très vite, c'est la drogue de la mort. Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin. Il y a cette ambivalence qui donne une aura particulière à ce produit.
D'abord, ça a été véhiculé par la musique. C'est quand même ça qui a été le véhicule en France comme partout dans le monde. Les Stones, Jimi Hendrix, Jimmy Joplin, enfin bon, je sais pas, ça a été porté par ces musiques. On a souvent résumé ça à sex, drogue, and rock and roll. C'est une caricature, mais c'est vrai aussi. Hein. Non, la musique, ça a été vraiment massif, je pense. Hein. On se reconnaissait parce qu'on écoutait les mêmes musiques et du coup, on rentrait dans cette culture, cette contre-culture. Si je pense au groupe de mes amis avec lesquels on s'est mis à consommer des drogues, là aussi, ça a été un mouvement collectif. Hein. On partait à la découverte. Il y avait des gens qui avaient commencé à voyager, qui revenaient d'Asie ou des États-Unis ou de... On était des marginaux, d'ailleurs, on revendiquait d'être des marginaux. Hein.
J'étais vraiment très sage comme ado, vous voyez, très sage. Je correspondais au papa immigré qui voulait une fille hyper... Vous voyez, qui fréquentait pas les garçons, pas de copains garçons, rien.
Malika.
Et puis il y a eu mai 68 avec les grèves. Je peux pas rentrer chez moi parce que j'avais déménagé... Mon père avait déménagé donc en banlieue. Et donc, du coup, j'habite chez cette copine. Elle avait un frère qui se défonçait. Moi, sans en avoir l'air, j'étais fragile. Et on commence toutes les deux par prendre des excitants, du Coridrane, les comprimés que prennent les étudiants, d'ailleurs. Et puis, son frère qui, lui, consommait, qui était un beatnik qui voyageait, il allait au Maroc, etc. On fume avec son frère et avec ma copine, on part se balader en France. On fait du stop, on dort où on peut et puis on va au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et puis elle s'amourache d'un gitan. Du coup, moi, je suis un peu à l'écart et du coup, je dis tiens, je vais aller me faire un tour à Marseille. Et puis à Marseille, je rencontre quelqu'un que je connais qui venait d'aller vendre son sang, parce qu'à l'époque ça se faisait, on est en 68. Hein. Il a vendu son sang, il a eu un peu d'argent et il s'est acheté de l'héroïne. Il me dit « tu veux essayer ?» Donc je le prends d'abord par sniff, je l'inhale et j'en achète une petite quantité, enfin une petite quantité, parce que ça coûtait pas cher. Ça coûtait à peu près 20 francs, les 10 grammes. Et pour avoir une idée de ce que représentait 20 francs à l'époque, un paquet de gauloises coûtait 1 franc 50. Je retourne voir ma copine au Sainte-Marie-de-la-Mer. Et puis, je me refais une ligne d'héroïne. Et voilà, ça c'est mon entrée dans l'héroïne.
Et pourquoi Marseille ?
Ah, parce que Marseille, c'était historiquement, c'était la plaque tournante de l'héroïne à l'époque.
80% de l'héroïne consommée dans les rues des grandes villes américaines, notamment à New York, venait de Marseille.
Alexandre Marchand, historien.
Cette filière, la French Connection, qui s'est implantée en Méditerranée à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui en fait était entre les mains principalement de familles de la mafia corse de Marseille, produisait de l'héroïne dans des laboratoires clandestins implantés autour de Marseille à partir de morphine base qui était achetée au Proche-Orient, détournée de la production légale de pavot d'opium en Turquie. L'héroïne, après, partait vers le Nouveau Monde, vers les États-Unis, approvisionnait le marché clandestin américain et rentrait sur le continent américain en passant soit directement par les États-Unis, soit par le Canada, le Mexique ou différents relais en Amérique latine. C'est une filière, c'est un équilibre, en fait, entre plusieurs groupes criminels, les uns nord-américains, les autres corses de Marseille et puis les autres encore trafiquants de morphine base au Proche-Orient. Ça n'a fait que grossir avec le temps, avec des profits de plus en plus décuplés, à mesure aussi que la demande en héroïne augmentait aux États-Unis.
Il faudrait faire de la publicité à la télévision pour ce produit. On pourrait demander un label de qualité au gouvernement des États-Unis. Le premier hit parade de la CAM, l'Oscar des stupéfiants. Poison de première classe. Elle est pure à 89%, la meilleure que j'ai jamais vue. Si toute la marchandise est de cette qualité, je peux vous dire que vous en avez au moins pour 2 ans.
Ça signifie qu'il y en a pour 500 000 dollars.
Combien vous en avez ?
60.
60 kilos ? Vous la payez 8000 dollars le kilo, n'est-ce pas ? En la coupant, c'est 420 kilos qui descendront dans la rue.
Si on vend la dose 5 dollars, on doit en tirer 32 millions de dollars.
Et on arrive à une situation à la fin des années 60 où, d'après les dires des dirigeants du Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs aux États-Unis, que les Américains, du coup, ont baptisé French Connection, puisque le noyau central de cette chaîne de trafic était Marseille, donc en France. Et alors, la French Connection ne produisait pas pour la France, hein, on produisait pour le marché américain, mais il est vrai qu'à la fin des années 60, quand il a commencé à apparaître une consommation de stupéfiants en France, c'était pas sur l'héroïne, c'était plutôt les hallucinogènes, le cannabis, mais bon, par porosité, peu à peu, de l'héroïne marseillaise s'est retrouvée aussi en circulation sur un marché clandestin français de la drogue qui était alors en plein cours de constitution à la fin des années 60.
Un jour, un jeune m'a proposé, un garçon de mon âge à peu près, « Tiens, goûte ça, c'est bien, tu verras, c'est pas dangereux, c'est pas toxique, tu peux... Si t'en prends qu'une, tu risques rien et tout. » J'ai goûté, ça m'a plu, bien sûr. Enfin, d'abord, j'ai brisé, bien sûr. Puis, on a un flash, on appelle ça un flash, qui dure à peu près 10 minutes. Là, ça se passe tout dans le cerveau, alors on est un peu en vacille, quoi. Puis, après, c'est physique, surtout. L'héroïne, ça vous sort de la personnalité, alors. J'ai le sentiment d'être quelqu'un d'autre, quoi, oui. D'être plus fort que ça, vous voyez.
Pourquoi est-ce qu'on a toujours envie de continuer?
Je sais pas, on a envie de continuer parce que c'est bien, parce que ça nous plaît. On se dit, on ne s'intoxiquera pas, c'est pas possible. C'est du bluff, ça. D'abord, intoxiquer, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on en a toujours envie, mais moi je sais que si je veux m'arrêter, je pourrais m'arrêter. Puis un jour, vous êtes intoxiqué, c'est fini, on ne peut plus s'arrêter.
Supposez, vous qui êtes là, devant moi, normal, je vous fais pendant 15 jours ou 3 semaines des piqûres d'héroïne. Dans 3 semaines, vous allez demander, vous allez supplier pour qu'on continue ce traitement. Et ça vous met alors dans un état second. Cet état second va vous conduire à quoi? Va vous conduire à de la délinquance, à du vagabondage, tout ce qu'il faut pour avoir la drogue. Et c'est ça qui est le drame.
Je me retrouve donc avec mes 10 grammes d'héroïne. Je consomme très peu puisque je suis pas habituée, autant au niveau de la dépendance, tant au niveau des doses. Et puis je ne me shoote pas. Quand vous sniffez, il y a deux aspects. On peut dire il y a l'aspect économique. Économique, c'est-à-dire pour avoir un effet en sniffant, il va vous falloir plus de quantité que si vous l'injectez. C'est normal. Quand vous sniffez, ça passe dans les capillaires, alors que quand vous l'injectez, ça passe directement dans le sang. Donc déjà, il y a l'aspect économique. Après, il y a l'aspect pratique. C'est plus facile de se faire un sniff dans les toilettes plutôt que de commencer à sortir son attirail. Qu'est-ce qui va vous amener à faire le choix? Parce qu'il y a l'effet aussi. Alors l'effet, en injectant, c'est... brutal, c'est violent. On dit souvent que ça peut ressembler à un orgasme. On parle de flash. Et puis, au fur et à mesure que vous devenez dépendant, vous le sentez de moins en moins, ce flash, ce pseudo-orgasme. Après, vous ne dites plus flash, vous dites une montée. Et c'est plus doux. Donc, je remonte à Paris et là, je retrouve ces amis, ces copains que je connaissais déjà pendant mai 68. Et je leur dis que j'ai 10 grammes d'héroïne. Alors là, je suis bénie, je suis... Donc, ils s'occupent de tout. Ils vendent l'héroïne, ils ramènent l'argent. Je suis dans un hôtel pas cher, en face de Notre-Dame. Dans l'hôtel, il y a plein de toxicos qui consomme de l'héroïne. Puis quand il n'y a plus d'héroïne, eh ben je redescends à Marseille. À chaque fois, je rachetais un peu plus. À Marseille, eh ben le vieux Marseille, là, ça a été rénové. Ce qu'on appelait le panier ou bien la porte d'Aix. Donc, des lieux très populaires. Donc, je remonte à Paris. Je remontais en stop. Je prenais même pas le train, vous voyez. Puis ça dure plusieurs mois, comme ça. Le quartier dans lequel je gravitais, c'était le carrefour Bussy, Saint-Germain, Odéon. Et là, on se rend compte qu'il y a toute une population accro à l'héroïne.
Il y a des pompes ! Hey,
gueule,
clown !
Non,
blow !
tu découles en ton fauteuil. Tu allumes ta boîte à peur. Tu connais le programme par cœur. Tu es l'un abruti de la télé.
Et on est en quelle année là?
Là, on est toujours en 68, fin. On est en décembre 68. C'était très diversifié, les origines. Donc, il y avait notamment des jeunes Allemands qui squattaient un peu Paris parce qu'il y avait l'héroïne. Et puis, c'était aussi une population, ça me dérange un peu, mais c'était des petits blancs, quoi, des Français. À l'origine, eux, ils étaient d'abord délinquants. Et puis, ils étaient passés à l'héroïne. Il y avait aussi ce qu'on appelait des zonards qui étaient passés aussi à l'héroïne.
Qu'est-ce que c'est qu'un zonard?
Alors, les zonards, c'est comme des hippies, sauf qu'ils voyagent pas, on va dire. Ils sont scotchés sur Paris, là où ils peuvent se démerder, faire la manche, etc. Il y avait une polytoxicomanie aussi, vous voyez. Il y avait effectivement les gens qui prenaient que de l'héroïne. En ce qui me concerne, moi, j'étais passée à l'opium, mais c'est un opiacé. Et puis, il y avait d'autres personnes qui prenaient de l'éther, qui prenaient des comprimés, des amphétamines. C'était très hétéroclite.
Il y a un certain moment, on en a marre, on n'arrive plus à dormir ni rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On se défonce. On prend l'éther, ben, c'est beaucoup mieux, hein. Tu t'endors. Bien sûr, quand tu travailles le lendemain matin, tu as toujours les mêmes problèmes. Alors, quand tu vois que ça va encore mal, tu te dis, bon, ben, je me redéfonce. Et une fois que la bouteille, elle est finie, nous, on la jette.
Et j'ai une question sur ce milieu. Est-ce que c'était un milieu politisé, qui se sentait contre-culturel? Est-ce qu'il y avait une revendication ou pas du tout dans le mode de vie?
Dans leur mode de vie, oui. Parce qu'on pourrait dire que c'était des gens bohèmes. Ils vivaient au jour le jour. Ils ne travaillaient pas. À l'époque, il n'y avait pas de RSA, RMI, il n'y avait rien. Hein. Ils n'avaient pas le chômage non plus. En fait, le moyen de subsistance, c'était des gens qui, avec la drogue, soit ils avaient eu l'occasion d'en acheter et d'en revendre, mais ils étaient d'abord consommateurs, soit ils étaient intermédiaires, c'est-à-dire ils consommaient, il y avait une personne, une de leurs connaissances qui voulait en acheter, et ben eux, ils connaissaient un vendeur, et du coup, au passage, ils se faisaient un bénéfice, quoi. Il existe des situations où ça va être quelqu'un qui va chercher, mais qui n'est absolument pas consommateur, qui fait ça pour le business. C'est un business, il va chercher de la drogue, il en vend, mais il n'est pas consommateur. Tandis que dans mon cas et là où je gravitais, les gens étaient d'abord consommateurs, et pour assurer leur consommation, ils en arrivaient à aller chercher et à dîner.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Là, je suis en train de mélanger l'héroïne avec du manicol. 4 grammes d'héroïne pour 4 grammes de manicol. C'est-à-dire, j'achète 4 grammes. De ces 4 grammes, j'en fais 8 grammes pour la revente.
8 grammes, je vais peut-être revendre 5 grammes. Les 3 autres grammes, je vais les garder pour moi, pour ma consommation personnelle. Donc, même en vendant les 5 autres grammes, si toutefois ça me ramène l'argent que j'ai dépensé à l'achat, j'ai 3 grammes qui me restent à moi et ma consommation est gratuite. De toutes les manières, quand je vais descendre, certainement tout à l'heure, pour vendre, je ne prendrai pas tout ça sur moi. Hein. Je vais prendre maximum 2 grammes. Mais ces 2 grammes-là, je les laisserai dans le même paquet. Parce que si jamais, de chez moi, à mon point de chute, si toutefois je me faisais arrêter, je peux faire passer ce paquet de 2 grammes pour ma consommation personnelle. Si j'ai plusieurs petits paquets sur moi, le deal est tout de suite prouvé. Donc je tombe.
Le débat sur la drogue, il commence à la fin des années 60 en France, quand on commence à voir les consommations augmenter, que les policiers nous disent qu'on arrête de plus en plus de consommateurs, que aussi le pouvoir s'inquiète de la contre-culture.
Alexandre Marchand.
Il y a certains courants de pensée venus de l'étranger, venus des États-Unis, la contre-culture avec la transgression, la valorisation de l'hédonisme, d'une consommation du coup récréative de stupéfiants, drogue douce principalement, le psychédélisme aussi, hein, qui fait l'apologie des hallucinogènes, et du LSD qui a un statut un petit peu juridique ambigu jusqu'au milieu des années 60.
Remember, be cool. Overt rebellion. Is part of the game.
Timothy Leary.
Evolution is a silent, invisible process.
le pape du LSD.
Be cool, be kind, turn on, tune in, drop out.
Donc cette valorisation des consommations de drogue inquiète les autorités, le législateur. Et puis en 1969, on va avoir au cours de l'été une affaire qui va être montée un peu en épingle par les médias, c'est l'affaire de Bandol, l'overdose d'une jeune fille de 17 ans dans les toilettes du casino de Bandol où elle venait de se piquer à l'héroïne. Et du coup, ce fait divers va lancer à l'automne, à la rentrée 69, tout un grand débat dans la presse, toute une vraie panique morale avec des dizaines d'articles qui sortent dans tous les journaux pour évoquer avec beaucoup de dramatisation et d'angoisse l'affaire de Bandol, la menace qui plane sur la jeunesse, ce cancer qui ronge la jeunesse. Et le législateur s'en saisit et commence un grand débat sur la drogue à la fin de l'année 69, les parlementaires qui discutent, audition extraordinaire menée par la commission des affaires familiales, culturelles et sociales, dirigée par Alain Perfitte, qui auditionne des médecins, des policiers, des magistrats sur ce problème. Alors c'est en partie une réponse à mai 68. Il n'y a pas que ça qui a joué, mais effectivement, le soulèvement de la jeunesse dans le quartier latin, à Paris ou ailleurs en France, au cours du printemps 68, a beaucoup inquiété le législateur. Donc, cette jeunesse qui va mal, cette jeunesse qui s'est révoltée contre l'autorité, cette jeunesse qui peut être pervertie par ces idées venues de l'étranger, cette contre-culture permissive qui valorise l'hédonisme et la consommation de stupéfiants, il y a un problème, il faut réagir, il faut reprendre en main la jeunesse. La drogue est un des aspects du problème. Et on voit d'ailleurs, lors des auditions parlementaires de 69, les députés demandaient aux policiers si dans la Sorbonne évacuée en 68, on a trouvé effectivement des traces de drogue. Et aux policiers de répondre qu'en fait, non, il n'y en avait pas. Donc, le législateur va vouloir assigner forcément un lien entre drogue et l'agitation, l'anarchie 68arde, alors que dans les faits, le lien, on le trouve difficilement. C'est vrai qu'il y a parfois eu des étudiants 68ards qui consommaient des drogues, mais d'autres non. Donc, le lien n'est pas automatique et aussi systématique que voudraient le voir les députés. Quand on regarde les propos des parlementaires ou d'Alain Perfitte qui publiera le compte-rendu de ses auditions en 1970 dans un livre qui s'appelle « La drogue », il dramatise à l'extrême la question. Dans sa préface, il dit « Tout ça, c'est la faute de la société de tolérance, il y a eu un relâchement dans les normes, le contrôle parental, la morale. Il est interdit d'interdire ce genre de slogan. On voit, on en paye le prix. Aujourd'hui, les jeunes consomment des drogues. Notre jeunesse s'intoxique, s'empoisonne. Il faut la sauver. » Et députés et sénateurs parlent carrément de fléau social contre lequel il faut une loi de salut public. Et tout ça aboutira à la loi de 70.
Jusqu'à une période très récente, il y a un ou deux ans environ, la drogue était en France un problème classique qui concernait essentiellement les adultes de retour des colonies qui avaient pris l'habitude de fumer l'opium et qui la conservaient, et puis des adultes qui se piquaient à la morphine, souvent d'anciens accidentés qui avaient pris l'habitude de la morphine et qui ne pouvaient plus s'en passer. C'était un phénomène classique et constant, stagnant si l'on peut dire. Or ce phénomène-là est en régression. Par contre, il y a un phénomène tout à fait nouveau qui est apparu, c'est que des jeunes, et souvent des très jeunes, de 12 ou 13 ans, s'intéressent à l'une de ces nombreuses drogues qui composent des paradis artificiels, depuis la marijuana jusqu'à l'héroïne, et malheureusement, commencent souvent par celui qui a l'air d'être inoffensif, c'est-à-dire la marijuana, et finissent quelquefois par celui qui ne pardonne pas, c'est-à-dire l'héroïne.
Il y avait déjà une loi bien antérieure qui avait été votée en 1916.
Anne Coppel.
Une loi de prohibition et qui avait interdit toutes les drogues illicites, l'héroïne, la cocaïne, et qui sanctionnait le trafic, qui ne sanctionnait pas la consommation. Et ça, la loi de 70, elle a pénalisé l'usage, c'est-à-dire elle a sanctionné la consommation avec la possibilité d'une année entière de prison et une amende importante quand même. Cette pénalisation de l'usage a été exigée par le ministère de l'Intérieur qui a absolument voulu cette loi, cette sanction. les médecins qui étaient consultés à la santé, au ministère de la Santé, n'étaient pas trop d'accord avec ça. Ils pensaient que ce n'était pas une bonne idée de mettre les jeunes usagers, à l'époque c'était forcément des jeunes, hein, de les mettre en prison, que ce n'était pas du tout une bonne idée. Mais grosso modo, ils ont obtenu l'injonction thérapeutique qui permettait d'échapper à l'incarcération. Donc ils se sont dit, bon, on va accepter. Pourquoi cette exigence du ministère de l'Intérieur et de la Justice? C'est parce que pour eux, à ce moment-là, les drogues, la drogue, comme il disait, la drogue symbolisait la contestation. Le drogué, c'était forcément un contestataire. Et c'était une façon de décrédibiliser les contestataires, voire les révolutionnaires, de les décrédibiliser en disant, voyez, ce qui va vous arriver, vous faites n'importe quoi, vous êtes complètement anarchiste et vous allez finir dans la rue. Ou en prison. Enfin, voilà. Et donc... Ça, c'était l'idée. Et cette idée est restée dominante pendant très longtemps. Je dirais même au cours des années 80, où l'héroïne est en train de se diffuser, l'opinion des politiques comme de la société, enfin des gens qui n'étaient pas directement en contact avec ça, considéraient que, oui, le toxicomane, c'était une forme de contestation de la société, une sorte de hippie qui contestait les valeurs travail, famille, patrie. Les valeurs conventionnelles.
Monsieur le ministre de l'Intérieur vient de prendre des mesures très particulières et très importantes en ce qui concerne la répression du trafic et la consommation de la drogue. Des nouvelles équipes sont mises en place, les surveillances, les contrôles, les descentes vont être amplifiées sur le territoire français. Et mon Dieu, je pense que ces mesures seront très bonnes et que nous aurons rapidement de très bons résultats, des résultats tangibles qui nous permettront d'enrayer cette petite vague qui semblait vouloir déferler sur la France.
La police découvre que ben, l'héroïne, ça existait depuis longtemps, mais là, ça se diffuse. Donc, il y a une vague d'arrestations.
Malika.
Donc, le quartier de Bussy, ben, ça devient de plus en plus désert. C'est de plus en plus difficile de trouver des drogues. Et les gens un peu disparaissent. Et puis surtout, nombreux sont ceux qui vont en prison. Moi-même, j'y suis allée après, en 69. Si vous voulez, la loi, c'était bizarre. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme si vous aviez le droit de vous droguer, mais faut pas qu'il y ait de preuves que vous vous droguez, quoi. Moi, j'avais des traces, et donc je me suis retrouvée comme ça. Ça a été très, très difficile, parce que j'étais dépendante. À l'époque, c'était la prison de la Roquette. Je dis ça avec le sourire, mais tout le carrefour Bussy était à la prison de la Roquette. Vous voyez, j'ai retrouvé toutes mes copines là-bas. Donc, je suis restée 3 semaines.
Il n'y avait pas de prise en charge du tout sur le fait que vous étiez en manque, éventuellement?
Non. On me donnait, comme traitement, on me donnait un médicament pour soutenir le cœur et un médicament pour pas avoir mal au ventre, de la viscéralgine. Vous savez, ce que vous prenez quand les femmes ont leurs règles. Donc c'était... Non, on en a bavé. Hein.
Alors la loi 70, elle impose un schéma qui est assez simple, simpliste, même binaire. C'est qu'il y a d'un côté le trafiquant et de l'autre le consommateur qui est une victime, avant tout, un malade qu'il faut soigner, qu'il faut aider.
Alexandre Marchand.
Et donc la loi va surtout être répressive pour les trafiquants. Donc le trafic, gros ou petit, la production de stupéfiants, hein, les marchands de mort dont les députés parlent en 69-70, il faut lutter sévèrement contre eux. Donc les peines sont augmentées. C'est la plus grande sévérité qui doit s'appliquer sur les producteurs, les trafiquants. Par contre, les usagers, il faut être clément avec eux, parce que ce sont des victimes de ces marchands de mort. Ce sont des malades qu'il faut soigner, sevrer intégralement et réinsérer. Donc la loi est dure, mais son application va être... humaniste, en tout cas c'est comme ça que le souhaite le ministre de la Santé qui est Robert Boulin, c'est-à-dire que normalement la loi interdit la consommation de drogue et puis on encourt une peine de prison, même pour un usage simple de cannabis, mais dans les faits, si le prévenu accepte de suivre une cure de désintoxication, censé être suivi à distance par le magistrat, alors à ce moment-là, il peut échapper à la sévérité de la loi et aux poursuites judiciaires. C'est le principe qu'on va bientôt appeler l'injonction thérapeutique. Donc la loi est dure pour les trafiquants, la loi est dure mais souple dans son application humaine pour les consommateurs. Le problème, c'est qu'avec le temps, on va voir que ce schéma binaire n'est pas tout à fait opératoire parce que beaucoup d'usagers sont aussi des revendeurs. Notamment les toxicomanes lourds à l'héroïne, ce qu'ils font, c'est qu'ils achètent parfois de l'héroïne en gros, parfois ils vont même s'approvisionner eux-mêmes en Thaïlande ou en Malaisie, comme ça se fait beaucoup dans les années 70. Ils reviennent avec des quantités d'héroïne, ils ne consomment pas tout, ils revendent une partie à leurs proches, à leurs amis, à des tiers, et donc ils font du petit trafic. Et donc là, problème, comment on applique la loi ? L'usager-revendeur, est-ce qu'il faut le traiter comme un usager et donc être doux avec lui ou comme un revendeur et être très strict ? Et finalement, on va trancher au début des années 80 dans un sens répressif. L'usager-revendeur est un revendeur avant d'être usager, donc un petit trafiquant et donc il doit être traité très sévèrement et aller en prison si effectivement le magistrat le juge en appliquant la loi.
J'ai fait beaucoup de prison. J'ai fait beaucoup de prison parce que, en fait, je me suis défoncée une vingtaine d'années, à peu près. Donc, il fallait que je sois délinquante. Ou j'arrivais à pouvoir vendre un peu, ou j'étais délinquante. Ce qui fait que quand on est délinquant, on se fait prendre. Donc, je suis allée en prison plusieurs fois. Et il y a une fois où je suis allée en centrale, parce que j'ai eu tous les sursis qui ont été révoqués. Et je suis allée à la centrale de Rennes. Donc j'ai découvert l'univers de la prison des femmes avec des peines de 10 ans, 20 ans. Et moi, j'étais pour consommation.
Et autour de vous, il y avait d'autres personnes avec vous qui étaient pour consommation ?
Non, mais vous imaginez le choc que ça vous fait quand même. On vous a mis 2 fois 8 mois de prison parce que vous faites du mal à vous-même. On m'a révoqué le sursis, j'avais donc 16 mois à faire. Et je me retrouve avec des femmes qui sont des criminels, quoi.
C'était en quelle année ?
73, 74. Non, ça a été terrible. Terrible.
Mais dans cette centrale, il n'y avait pas forcément des consommatrices, des personnes qui avaient été...
Il n'y en avait qu'une.
Il y avait que vous.
Il y avait une et moi. Et elle était de Marseille. Et quand je suis arrivée, il lui restait pas grand-chose. Elle avait fait 2 ans, elle.
C'est une histoire bizarre quand même, cette histoire de loi de 70. Parce qu'elle reste dans le code de santé publique tout en créant un délit. Donc en fait, c'est une espèce d'aberration où on considère que des gens qu'on qualifie de malades sont aussi des délinquants.
Fabrice Olivet, historien.
Et il n'y a pas d'autre exemple dans notre législation où on va criminaliser des gens qui sont par ailleurs considérés comme des malades. Donc on voit bien qu'il y a un saut qualitatif là qui est lié à un objectif politique, qui est d'utiliser ce prétexte pour pouvoir frapper des populations qu'on considère comme dangereuses.
Et qu'est-ce qui conduit en 1972 à l'interdiction de vendre des seringues ?
C'est la même logique. C'est cette logique de répression, c'est-à-dire à partir du moment où on installe cette question de consommation de drogue comme étant une menace sur l'ensemble de la société, il paraît logique d'interdire, y compris les outils qui permettent de consommer cette drogue. Sans, évidemment, prévoir qu'on va avoir cette épidémie de sida et d'hépatite, d'ailleurs, quelques années plus tard. Bon, alors moi, je m'appelle Fabrice Olivet, j'ai 65 ans, et je fais partie de cette génération qui a consommé de l'héroïne dans les années 70-80. Je suis métisse, donc je connais pas mon père, qui est un homme noir. J'ai été élevé par des grands-parents dans une famille assez bourgeoise. Et ensuite, au moment de ma crise d'adolescence, j'ai eu cette appétence pour ce qu'on appelait les paradis artificiels et un pas de côté dans la société française qui m'a amené à un parcours de marginalité assez violent, une rébellion contre mon milieu social. Le parcours de l'héroïne, ça s'accompagnait aussi d'actes de délinquance, puisque l'héroïne coûte beaucoup d'argent. Acheter de l'héroïne, c'est quelque chose qui nécessite forcément d'avoir des activités délinquantes. Donc j'ai eu tout un parcours, y compris des années d'incarcération, suivi ensuite d'un parcours qu'on appelle de réinsertion entre plusieurs milieux, du fait de l'originalité de ma biographie. Donc j'ai été totalement réinséré, je suis devenu professeur d'histoire, et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de l'injustice de ma condition, notamment ma condition de personne séropositive. I don't know just where I'm going. Try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein, and I tell you things aren't quite the same when I'm rushing on my run, and I feel just like Jesus' son, and I guess that I just don't know, and I guess that I just don't know.
Et à partir de quand certains quartiers parisiens deviennent des lieux où d'approvisionnement de drogue, enfin, on peut acheter de la drogue et où c'est connu, des consommateurs se rendent pour acheter à leur dose?
Il y a eu une période où les lieux de vente connus étaient plutôt situés au sud de la Seine, sur la rive gauche, avec d'un côté les quartiers de plaisir, Montparnasse. Enfin, Montparnasse avait était un quartier de fêtes et de plaisir et aussi de circulation des drogues qui datait de longtemps, hein, avant les années 70-80, dans l'entre-deux-guerres, c'était des lieux aussi de la contre-culture. Donc voilà, c'était ces quartiers-là.
Aude Lalande, ethnologue.
Et puis aussi les quartiers Maubert, Saint-Germain, la Contrescarpe aussi, ou des quartiers fréquentés par la contre-culture également, et aussi des quartiers qui étaient en transition pour certains, dans lesquels il y avait des formes de restructuration urbaine qui permettaient des circulations, une forme d'instabilité qui permettait de se glisser dans les interstices pour développer aussi des économies informelles, parmi lesquelles les drogues. Donc voilà, ça c'est dans les années 60, 70, et puis après, en fait, on a eu un mouvement de reflux vers le nord qui s'est fait à la faveur à la fois du déplacement des pratiques culturelles, des lieux de plaisir, et puis mais aussi de la gentrification d'une part, et puis de la pression policière. Et donc ça a passé la Seine. Après, il y a une période où c'était plutôt sur les grands boulevards, toute la zone autour des Halles, et puis en remontant vers les grands boulevards. Puis ça a continué de monter vers le nord, donc les quartiers de Barbès, Goutte d'Or et Belleville.
Dans Paris, finalement, il y a eu plein de lieux. Après Saint-Germain, ça a été la mosquée.
La mosquée de Paris.
Ouais.
Dans quel quartier?
C'est le 5e.
Oui.
C'est vers le Jardin des Plantes. En 76, moi je suis à Montparnasse, qui est devenu un lieu de deal, où il y a des usagers, des consommateurs, etc. Et il y a quelqu'un qui me dit, il y a de l'héroïne à Belleville. Donc je suis étonnée parce que je connaissais Belleville pour y être allée acheter du cannabis, du shit, dans certains cafés, etc. Donc j'y vais et là c'est drôle parce que je retrouve des gens que j'avais pas vus depuis des années. Les dealers, c'est des Tunisiens, quelques Marocains qui au départ ne consomment pas, qui très rapidement se mettent à consommer, deviennent dépendants, vivent très mal leur dépendance. Ils sont, oui, ils sont surpris, ils la vivent très mal. Et ces petits dealers,
Il passe du jour au lendemain à se faire plein d'argent. Et ils n'en reviennent pas, quoi. À l'époque, c'était les francs. Ils se faisaient, 800 sacs. Ils se faisaient énormément de fric en une journée. Les voitures, les taxis s'arrêtaient. Je vous dis, c'était la folie, la folie. Alors, il y avait des dealers qui étaient très durs. Et puis, il y avait des dealers qui étaient hyper sympathiques, gentils. C'est l'être humain, voilà. Hein. Dealer ou pas, l'être humain est ainsi. Et donc là, à Belleville, il y a vraiment l'héroïne diffuse énormément. Au fur et à mesure du temps, les dealers consomment. Au début, ils sniffent, puis ils se mettent à injecter. Il y avait un dealer, tous les jours, je passais le voir et je l'aidais à faire son injection, quoi, parce qu'il n'y arrivait pas. Et pour vous dire jusqu'où ils étaient vraiment très mal en point, ça leur a sauté dessus. Ça faisait de la peine parce que ça... Comment dire, moi j'étais dans, je vois pas pourquoi j'avais de la peine, mais ça me faisait quand même de la peine. Parce qu'il y avait des gens gentils. Moi j'avais mis du temps à connaître les règles de ce milieu, les règles de la drogue, comment ça se passe, etc. Eux, ils tombent dedans comme ça, ils font face même à une violence de certains clients, quoi. Ils n'étaient pas préparés au départ. Et puis après, bon, évidemment, ils sont devenus durs aussi. Et puis, il existait d'autres lieux dans Paris, notamment le quartier dans le 17e arrondissement, un quartier populaire.
Le quartier de Guy Môquet.
Le quartier Guy Môquet. J'ai mieux connu le quartier Guy Môquet par rapport à mon compagnon, le père de mes enfants. Saint-Germain, il y avait chez certains consommateurs, chez certains usagers, une petite fibre assez artistique. Soit dans la peinture, soit à un moment donné, ils avaient voulu faire les beaux-arts, ou bien il y en avait qui écrivaient un peu. Mais c'était pas la majorité non plus, hein. Tandis qu'à Guy Môquet, il y avait un lien avec la délinquance. Quand on était obligé d'aller à Guy Môquet parce qu'il y avait pénurie à Saint-Germain, on était méfiants. À Guy Môquet, c'est toute une génération. Ils se connaissaient tous. Ils avaient tous été à l'école, un peu comme par rapport à la banlieue. Ils avaient été à l'école ensemble, et puis ils se défonçaient ensemble. Souvent, c'était des jeunes qui avaient eu des enfances difficiles, comme je vous disais, quartier populaire, ouvriers, ils faisaient pas forcément des études. Eux, ce qu'ils voulaient, ce qui était important chez les amis de mon compagnon, c'était l'argent, la réussite sociale. Ce qui était important, c'était les belles chaussures, les Weston, c'était ça. Et des trucs aussi qu'on trouve parfois dans les générations de banlieue comme aujourd'hui, quoi, les Adidas, avoir fière allure au niveau de ses vêtements, etc. Sauf que pas de chance pour eux, ils sont tombés dans la drogue, dans l'héroïne, et là, ils sont tombés de charrem en scylla. Leurs chaussures, comme il m'expliquait mon copain, ils revendaient ce qu'ils avaient acheté auparavant, les années d'avant, quoi.
Bon, c'est marrant parce que gagné dans le 9-3 et en fait moi j'ai grandi par ici et la première fois que j'ai fait un sniff d'héroïne c'était pas loin d'ici à un concert de Téléphone à la MJC de Shell. Donc Téléphone n'était pas un groupe connu, il se produisait à la MJC, j'avais 16 ans et j'étais déjà un fumeur de pétards et avec des amis on a été voir ce concert, j'ai fait un sniff d'héro qui m'a paru sur le coup assez décevant puisque l'héroïne est toujours vue comme étant la drogue suprême. Et en fait, bon, j'avais déjà expérimenté le LSD, drogue psychédélique, on a des effets, des hallucinations, avec des effets extrêmement marquants, quoi, qui représentent un voyage, hein, d'où le terme trip. L'héroïne, c'est pas ça du tout, hein. Et je me rappelle de ce sentiment plutôt de déception. alors que je m'attendais à quelque chose beaucoup plus fort du type psychédélique. L'héroïne était une des drogues qui était consommée par la génération d'avant, la génération hippie, qui se sont mis à consommer des drogues en Occident dans les années 70. Mais avec plutôt une mauvaise réputation par rapport effectivement aux drogues psychédéliques qui étaient encore une fois vues comme des drogues de libération et d'expérimentation mentale. Mais il y avait dans la bourgeoisie, dans la petite bourgeoisie, notamment la petite bourgeoisie d'ici, hein, du 93, des pavillons, des personnes de classe moyenne qui faisaient le voyage aux Indes et en faisant ce voyage un peu initiatique, rencontraient l'héroïne et ramenaient de l'héroïne. Je pense que le passage d'une consommation d'héroïne importante dans les quartiers populaires s'est fait à travers une espèce de capillarité de fréquentation d'une partie de la population des quartiers populaires qui s'est mis à fréquenter les jeunes blancs, entre guillemets, de banlieue, et qui ont ramené ces habitudes de consommation dans les cités.
Pendant les années 70, ceux qui habitaient dans des cités, il fallait qu'ils viennent à Paris pour trouver des produits, pour en acheter. Mais à partir de fin 70 et début 80, il a commencé à y avoir de la revente sur place. Et quand il y a eu de la revente sur place, là, ça a été une explosion, en fait, enfin, dans certaines cités, parce que chaque cité a son histoire, hein. Et son histoire en matière d'usage comme en matière de trafic. Et au tout début des années 80, Christian Bachmann, avec qui je travaillais, avait obtenu de faire l'évaluation de ce qui s'appelait à l'époque le développement social des quartiers, ce qui est devenu après la politique de la ville. Il a loué un appartement dans les 4000 de la Courneuve. J'étais là quand il a emménagé et je l'ai accompagné et je lui ai dit, mais là, par terre, il y a des cotons, il y a des citrons, il y a des traces de sang. Ben oui, il y a même des seringues, il y a des drogués là-dedans.
Merci à Malika, Anne Coppel, Michel Kokoreff, Alexandre Marchand, Fabrice Olivet et Aude Lalande. Prise de son, Eric Audra, Raymond Alboui, Florent Bujon, Thomas Robin et Bruno Mourlan. Mixage, Cédric Chatelus. Archivina, Véronique Jolivet. Chargée de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Héroïne, le temps des seringues. Premier épisode, l'arrivée de la Blanche à Paris. Un documentaire de Hajar Ben Loubaker, réalisé par Gilles Blanchard. Retrouvez-nous sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. It's like going